إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فما زلنا نقرأ كتاب شرح منهاج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، مع شرح الشيخ سليمان بن عبد الله القصير حفظه الله. وما زلنا في باب النفقات للزوجات والأقارب والمماليك والحضانة. طيب، فقال هنا المؤلف رحمه الله تعالى: وكذلك من يرثه بفرض أو تعصيب، بعد قوله: وعلى الإنسان نفقة أصوله وفروعه الفقراء إذا كان غنيا. بعد ذلك قال: وكذلك من يرثه بفرض أو تعصيب. طيب، فقال شيخ سليمان حفظه الله: وبعد نفقة الأصول والفروع تأتي نفقة الوارثين من غير أصوله وفروعه كإخوته وأعمامه ونحوهم. فمن يرث شخصا بفرض أو تعصيب إذا مات فإنه يجب عليه إذا كان قادرا أن ينفق عليه إن كان فقيرا، لقول الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ثم قال: وعلى الوارث مثل ذلك. قال ابن قدامة في الكافي: فأوجب على الوارث أجرة رضاع الصبي فيجب أن تلزمه نفقته. طيب، donc poursuit l'explication de Manhaj al-Salikin de l'imam al-Sa'di rahimahullah ta'ala. Donc il dit l'imam al-Sa'di dans le chapitre concernant les dépenses obligatoires en faveur des épouses, des proches, des esclaves et également al-Hadana, la garde de l'enfant. Tayyib. Donc il dit ici l'auteur rahimahullah ta'ala: la personne se doit de dépenser pour ses usul, donc ses ascendants, et ses furu', ses descendants pauvres, si lui il est aisé, s'il a les moyens, d'accord, s'il a les moyens de dépenser pour eux alors qu'ils sont pauvres, eh bien il est obligé de le faire. Puis il dit: wa kadhalika man yarithuhu bi fardin aw ta'sib, et également il se doit de dépenser en faveur de qui il pourrait hériter, de qui il hérite, que ce soit un héritage bifard, c'est-à-dire d'une part décrété, déterminé, dans les textes religieux, ou d'une part non déterminé, le fait qu'il hérite, mais d'une part qui n'est pas déterminé de manière précise, comme le serait, mathanan, la moitié, le quart, le huitième, et ainsi de suite. طيب. نعم. Dit le cheikh Sulaiman Hafidhahullah en commentaire: donc après que l'on ait évoqué les dépenses en faveur des ascendants au sol, des descendants furu', nous allons voir ici les dépenses donc faites, qui doivent être faites par الوارثين c'est-à-dire les héritiers des gens qui ne font pas partie ni des ascendants ni des descendants. طيب, tels que ses frères ou ses oncles paternels et ainsi de suite. Donc, celui qui hérite d'une personne, que ce soit bifard, d'une part déterminée, ou bita'asib, une part qui n'est pas déterminée. Lorsque la personne meurt, voyez, ou si la personne meurt, se met à mourir, eh bien, il lui est obligatoire, s'il a les capacités, s'il a les moyens, de dépenser pour lui, s'il est pauvre. D'accord ? Donc si la personne fait partie des héritiers, par exemple, de son frère, si son frère meurt, si son frère est pauvre et que lui, il a les capacités, il se doit de dépenser pour lui. Pourquoi ? Parce qu'il fait partie de ses héritiers s'il meurt. Et cela en vertu de la parole d'Allah. Tabarak wa ta'ala de la surat al-Baqara, verset 233. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقال وعلى الوارث مثل ذلك. Dans le sens rapproché à Allah tabarak wa ta'ala, il dit: au père de l'enfant incombe de les nourrir et vêtir conformément à la bienséance. Puis il dit Allah tabarak wa ta'ala: chacun n'est imposé qu'à mesure de ses capacités. Taïeb. La mère n'a pas à subir de dommages par le biais de son enfant, ni le père par le biais de son enfant. Et la même obligation incombe aux héritiers. Et la même obligation incombe aux héritiers. Ou à l'héritier. Si on traduit littéralement. Hein? Il dit Ibn Qudama rahimahullah dans son livre Al-Kafi. Il dit donc ici qu'Allah tabarak wa ta'ala a imposé à l'héritier de subvenir aux frais ou de payer les frais relatifs à l'allaitement de l'enfant. Donc il lui est donc obligatoire de dépenser pour lui. Vous voyez ? Donc il dit ici al-warithi, l'héritier. وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره وقد استدل بذلك من ذهب من الحنفية والحنبلية إلى وجوب نفقة الأقارب بعضهم على بعض وهو مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجمهور السلف ويرجح ذلك بحديث الحسن عن سمرة مرفوعا من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. طيب من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. انتهى كلامه. وعن طارق المحاربي رحمه الله ورضي الله عنه قال قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس وهو يقول يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك أخرجه النسائي وصححه ابن حبان رحمة الله عليهم. Il dit l'imam Ibn Kathir رحمه الله تعالى dans son tafsir, il dit ceux parmi al-Hanafiya wal-Hanbaliya qui se sont servis donc de ce verset de la sourate Al-Baqara pour dire qu'il est obligatoire de dépenser pour les proches ou que les proches dépensent les uns pour les autres. Cela a également été rapporté par Omar ibn Khattab radiallahu anhu et la plupart des salafs ou l'ensemble des salafs. Et cela a été également appuyé et renforcé par le hadith d'Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, selon Samurata, qui remonte donc jusqu'au prophète, alayhi salatu wassalam, qui a dit, celui qui a ou qui possède ou qui devient le propriétaire, yani d'un esclave entre parenthèses, qui a un lien de parenté avec lui, qui fait partie de ses maharim, des gens avec qui il ne peut pas se marier, l'esclave sera automatiquement affranchi. L'esclave sera automatiquement affranchi. Taïeb? Naam. Également, selon Tariq al-Muharibi, rahimahullah ta'ala, qui a dit, nous arrivâmes à Médina lorsque le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ou alors que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était debout sur le mimbar, en train de s'adresser, de faire un discours aux gens. Et il disait, la main qui donne est la plus haute. Et la meilleure main, c'est celle qui donne. Elle est plus haute, donc c'est la meilleure. C'est celle qui a le plus yani, de mérite. Celle qui donne. Taïeb. Puis il dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, commence par ceux qui sont sous ta responsabilité. Yani par ceux pour qui tu te dois de dépenser et de pour qui tu te dois de donner. Puis il a dit, ta mère et ton père. Ta mère et ton père. Puis il a dit, ta sœur et ton frère. Et puis il a dit, et ensuite, les plus proches de toi. Hein, et ainsi de suite. D'accord ? Donc du plus proche au plus éloigné. Le hadith rapporté par Al-Nasa'i et authentifié par Ibn Hibban. فإذا كان الفقير وارث أو عفوا فإذا كان للفقير وارث أو أكثر فنفقته عليهم على قدر إرثهم منه لأن الله تعالى رتب النفقة على الإرث فيجب أن يترتب في المقدار عليه فلو كان له أم وجد فعلى الأم ثلث النفقة وعلى الجد الباقي لأنهما يرثان كذلك ولو كان له ابن وبنت فالنفقة بينهما أثلاثا كالميراث. Il dit par la suite, Cheikh Sulaiman, hafidhahullah, si la personne qui est pauvre, elle a quelqu'un dans sa famille donc, qui peut hériter de lui ou d'elle, d'accord, si elle meurt, un héritier ou plus, eh bien les dépenses pour elle, pour cette personne-là, leur incombe et en plus proportionnellement à leur part d'héritage ou alors ce qu'ils peuvent avoir d'héritage. C'est là car Allah tabaraka wa ta'ala a yani, agencé les dépenses en fonction de l'héritage. Il est donc obligatoire d'agencer également les dépenses donc en fonction de la part d'héritage. Taïeb, de la quantité ou de la part, la proportion d'héritage auquel elle a droit. C'est-à-dire que si la personne, par exemple, elle a une mère et un grand-père, eh bien, parmi ses dépenses, la mère, elle aura droit au tiers de ses dépenses. Et le grand-père, lui, au reste de ses dépenses. Car, également, eux aussi héritent de lui ou de la personne. Si la personne elle a un fils et une fille, eh bien, les dépenses seront partagées en trois. C'est-à-dire que le fils, il aura yani, les deux tiers et la fille, elle aura un tiers des dépenses. Comme l'héritage. Quel miraf. Taïeb. Wahakada. Taïeb. Naam. ثم قال المؤلف رحمه الله وفي الحديث للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق رواه مسلم إذن أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه فالحديث يدل على وجوب نفقة المملوك في مال سيده بقدر كفايته. Puis il dit l'auteur, rahimahullah, et dans le hadith, il dit le prophète, alayhi salat wa salam, pour l'esclave, donc, sa nourriture, ses vêtements, et on ne lui donne pas un travail qu'il ne peut supporter ou qu'il ne peut accomplir, d'accord, qui dépasse ses capacités.
Le hadith rapporté par l'imam muslim, selon Abi Huraira. Donc le hadith, il indique une chose qui est l'obligation de dépenser pour l'esclave, et que bien sûr, cette dépense, elle est faite par son maître. Et cela en fonction de ses besoins. D'accord? Des besoins de l'esclave. Taïe. وَإِنْ طَلَبَ التَّزَوُّجُ زَوَّجَهُ وُجُوبًا لِأَنَّهُ يَتَضَرَّرُ بِتَرْكِ الزَّوَاجِ وَيُخْشَى أَنْ يَقَعَ فِي الْحَرَامِ قَالَ تَعَالَى وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. Puis dit l'auteur ici, rahimahullah, ici l'esclave demande que son maître le marie, eh bien, il se doit obligatoirement de le marier. Subhanallah. Taïe? Pourquoi? Parce que si il ne le marie pas, l'esclave sera victime d'un préjudice. Et cela va le nuire fortement. Et on craindra pour lui qu'il tombe dans le haram, dans l'illicite. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ. Le sens du verset est marié les célibataires parmi vous وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ainsi que les vertueux parmi vos esclaves, hommes et femmes. وَعَلَى الْإِنسَانِ أَنْ يُقِيتَ بَهَائِمَهُ طَعَامًا وَشَرَابًا وَلَا يُكَلِّفَهَا مَا يَضُرُّهَا أَيْ يُقَدِّمُ لَهَا مَا يَصْلُحُ لَهَا مِنَ الطَّعَامِ وَالْمَاءِ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض أخرجه البخاري ومسلم. Puis dit ici, et la personne se doit de nourrir son bétail, ses animaux, ses bêtes. Il doit les nourrir et il doit les abreuver. Et il ne doit pas leur donner des tâches ou du travail qu'elles ne peuvent ou que ces bêtes ne peuvent supporter ou qui pourraient leur faire du mal. Donc la personne se doit de donner tout ce qui pourrait être profitable à ces bêtes comme nourriture et l'eau. Et cela par rapport au hadith d'Ibn Omar. Radiyallahu anhuma. Comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit une femme est châtiée à cause d'une chatte. Pourquoi? Parce qu'elle avait emprisonné jusqu'à ce que la chatte meure. D'accord? Et donc elle rentrera en enfer à cause de cet animal. Donc elle a enfermé, elle ne l'a ni nourri, ni donné à boire. Elle a enfermé, et donc vu qu'elle était enfermée, l'animal ne pouvait même pas chasser lui-même pour aller, par exemple, manger les insectes de la terre. Donc le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc il est sahih. Donc on voit ici qu'il est obligatoire de nourrir les animaux que l'on possède. Tayyib. Et dans le hadith, كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ رَوَّهُ مُسْلِمْ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ. Et dans le hadith, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il suffit à la personne comme péché d'enfermer ou de retenir ce que l'on doit donner comme subsistance à ceux qui sont sous notre responsabilité, que ce soit des humains ou des animaux. D'accord? Donc le hadith rapporté par Muslim, selon Abdullah ibn Amr. Taïeb. Alhamdulillah. Bien sûr, dans le hadith ici, عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ, il dit par rapport aux personnes humaines, car le terme « men » concerne celui qui ou ceux qui savent, ceux qui sont doués de raison. Na'am. ثم قال والحضانة هي حفظ الطفل
عما يضره. هي حفظ الطفل عما يضره، يعني كالجوع والعري والمرض والعطش ونحو ذلك. Puis il dit, on va parler maintenant de l'hadana, la garde des enfants. Donc c'est quoi l'hadana? La garde, mais c'est plus précis que ça. L'hadana, c'est la charge qui consiste à protéger l'enfant. À protéger l'enfant de tout ce qui pourrait lui faire du mal. Et aussi de faire tout ce qui pourrait lui être profitable ou de lui donner ce dont il a besoin, hein, pour yani, se développer, grandir correctement. Donc le hadana, c'est ça. La garde, c'est protéger l'enfant de tout ce qui pourrait le nuire et bien sûr lui donner, lui procurer tout ce dont il a besoin dans son intérêt. Donc tout ce qui pourrait lui nuire, tels que la faim, la nudité, la maladie, la soif, hein, et autres que cela. والقيام بمصالحه كغسل بدنه وثيابه ودهنه وتكحيله والعناية بنومه وصحته ونحو ذلك. Et faire tout ce dont il a besoin pour qu'il se développe et soit dans un état yani, qui lui est profitable et un bon état, comme le fait de le laver, laver son corps, laver ses vêtements, prendre soin de son corps yani, physiquement, tailler, de l'embellir, de s'occuper de lui par rapport à son sommeil, qu'il dorme bien, qu'il ait une bonne santé, et ainsi de suite. D'accord? Donc tout cela rentre dans Al-Hadana, le protéger de tout mal, la faim, la soif, la maladie, etc. Et de procurer ce qui est lui profitable comme un intérêt, la propreté, les purifications, laver ses vêtements, l'embellir, vérifier qu'il dort bien et qu'il soit en bonne santé. Idan, wa hadhihi Al-Hadana hiya wajiba ala man yajibu alayhi nafaqa. أي حضانة الطفل تجب على الأب فهو الذي تجب عليه نفقة ولده فإن لم يوجد فعلى من يرثه كما تقدم. Et donc l'hadana, la garde, elle est obligatoire à celui qui se doit de dépenser pour l'enfant. Donc celui qui a cette obligation-là de dépenser pour l'enfant, il a bien sûr l'obligation d'accomplir et de respecter cette hadana, ce devoir qui est le hadana. Donc le fait de garder, de préserver l'enfant, etc., c'est une obligation qui pèse en premier lieu sur le père. Sur le père, parce que le père est celui en premier qui se doit de dépenser pour lui. Mais si le père est absent, si le père n'est pas là, eh bien cela reviendra à celui qui hérite de lui, comme on l'a vu, qui hérite de l'enfant. Non, si l'enfant meurt, bien sûr. ولكن الأمة أحق بولدها ذكرا أو أنثى إذا كان دون سبع فتقدم الأم في حضانة ولدها لأنها أتم شفقة ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال إن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وثدي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي أخرجه أبو داود وصححه الحاكم واتفق العلماء على أن الأمة تقدم في الحضانة على غيرها. Puis il dit mais la mère elle est prioritaire, yani que l'enfant soit un garçon ou une fille, si l'enfant a moins de 7 ans. Donc si l'enfant a moins de 7 ans, la mère elle est prioritaire au niveau de la garde
hein, de l'enfant. D'accord? Pourquoi? Parce que la mère, de façon générale, elle a plus de compassion pour l'enfant que le père. Cela par rapport au hadith d'Amr ibn Shu'aib, selon son père, selon son grand-père, qui a dit, une femme a dit, ô messager d'Allah, certes, mon fils, mon ventre servait de contenant pour mon enfant. Mon sein lui servait d'abreuvoir et mon giron lui servait de protection. Et son père m'a divorcé, m'a répudié et en plus il veut enlever mon fils. Il ne veut pas que mon fils vive avec moi. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, tu es prioritaire, tu es plus en droit tant que tu ne te maries pas. Et tant que tu ne te maries pas, tu es prioritaire sur la garde de l'enfant lorsqu'il a moins de 7 ans. D'accord? Donc le hadith rapporté par Abu Daoud est authentifié par le Hakim. Et les savants sont unanimes sur le fait que la mère elle est prioritaire dans la garde de l'enfant par rapport aux autres individus. فَإِذَا بَلَغَ سَبْعًا فَإِنْ كَانَ ذَكَرًا خُيِّرَ بَيْنَ أَبَوَيْهِ فَكَانَ مَعَ مَنْ اخْتَارَ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت فداك أبي وأمي إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة فجاء زوجها وقال من يخاصمني في ابني فقال يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيدي أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به أخرجه أبو داود النسائي وهكذا أخرجه الترمذي وابن ماجة مختصرة وقال الترمذي حسن صحيح. Puis il dit, et si l'enfant, lorsque l'enfant a atteint l'âge de 7 ans, si c'est un garçon, on va le laisser choisir. Soit son père, soit sa mère. C'est lui qui va choisir. Donc il partira avec celui ou celle qui l'aura choisi. Et cela par rapport au hadith d'Abi Huraira, qui a dit qu'une femme vint voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, certes, mon époux veut partir avec mon fils. Alors que mon fils, Yanni, m'est utile. Yanni va chercher de l'eau dans le puits de Abi Inaba. Donc, elle est partie se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour savoir ce qu'elle devait faire. Puis d'un coup, son mari est venu et il a dit, qui me dispute la garde de mon fils? Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, en s'adressant à l'enfant, il lui a dit, ô Yaroulam, ô enfant, ceci est ton père et celle-ci est ta mère. Prends la main de l'un des deux. Prends la main de qui tu veux parmi ton père et ta mère. Et l'enfant a pris la main de sa mère et sa mère partit avec lui. Donc le hadith rapporté par Abu Daoud, al-Nasa'i et Wahakada, dans cette version-là, et al-Tirmidhi l'a rapporté également ainsi qu'Ibn Majah, de manière résumée, en disant c'est un hadith qui est bon, authentique. Voyez, ça c'est l'enfant, garçon, qui a atteint l'âge de 7 ans. C'est bon?
Est-ce que l'enfant il a le droit, par exemple, de dire, reste une semaine avec la mère et une semaine avec le père?
Ça c'est le juge qui décidera après. C'est le juge qui décidera. D'accord? Il devra donc dire ça au juge et le juge verra si c'est faisable ou pas faisable. Taïeb? Anam. Fa. Qala ba'da dhalik. Wan kanat untha. Fa inda man yakoumu bi maslahatiha min ummiha ou abiha. Fa l'untha la tukhayyir. وإنما تكون عند الأصلح والأحفظ لها فإن كانت الأم متزوجة من زوج غير مرضي في دينه فتكون عند أبيها وكذا إن كان الأب غير مرضي في دينه أو يخشى عليها من زوجة أبيها وكونها عند الأم أحفظت فتكون عند الأم وهكذا ومرجع هذا إلى القاضي puis dit ici si c'est une fille donc si l'enfant a atteint l'âge de 7 ans mais c'est une fille, c'est pas un garçon. Eh bien, on la mettra avec celui ou celle qui sera plus à même de lui donner ce dont elle a besoin. Qui sera plus à même de mieux s'occuper de cette fille. Donc la mère ou le père. Donc la fille, elle, on ne lui laisse pas le choix comme au garçon. Mais on la mettra avec la personne, donc le père ou la mère, qui sera la plus profitable pour elle. Parce que toujours c'est ça, l'essentiel, c'est les intérêts de l'enfant. On doit regarder que l'intérêt de l'enfant, pas l'intérêt du père ou de la mère. L'intérêt de l'enfant, c'est ça qui compte, par-dessus tout. Donc, on va voir du père ou de la mère qui est le plus apte à éduquer l'enfant, etc. etc. Taïeb, ou qui peut offrir le plus de sécurité à l'enfant, que ce soit économique, religieux, bien sûr, et autres. Donc si la mère, mathalan, elle se remarie avec un homme, mais qui n'est pas droit sur la religion, donc on la mettra avec son père. On ne la mettra pas avec la mère. Pourquoi ? Parce qu'elle est avec un autre homme, mais qui n'est pas sur la religion. Ou qui n'est pas sur la religion comme, connu comme quelqu'un de droit, etc. Donc on la mettra avec son père. Et également, si le père, son père, Yanni, est connu comme quelqu'un qui n'est pas droit sur la religion, et qu'on a peur également, ou que l'on ait peur par rapport à la nouvelle femme de son père également, dans ce cas-là, la mère sera plus à même d'avoir sa garde. Elle restera avec la mère et ainsi de suite. Donc, ici, on revient à qui ? On revient au juge. C'est le juge, bien sûr, qui va décider. Hein, c'est pas n'importe qui. C'est le juge qui va étudier la situation du père et de la mère, etc., qui va décider si l'enfant ira avec Yanni, la mère ou le père. Taïeb. ثم قال ولا يترك المحظون أو المحظون بيد من لا يصونه ويصونه ولا يصلحه لأن وجوده كعدمه فتنتقل الحضانة منه إلى من يليه. Et enfin, on finit en disant que l'enfant ne doit pas être laissé entre les mains d'une personne qui ne va pas le protéger, l'éduquer, le réformer comme il se doit. D'accord ? Pourquoi ? Parce que cette personne-là, qu'elle soit en vérité, qu'elle soit présente ou absente, c'est pareil. Même si elle est présente, elle ne fait pas son devoir d'éducation, etc. Donc, on ne peut pas laisser un enfant entre les mains de ce genre de personne. Donc, dans ce cas-là, eh bien, la garde reviendra à la personne qui viendra donc, après elle et qui sera apte à éduquer cet enfant-là. Non. والله تعالى أعلم والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.